à bâton rompu. À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Xavier Patier, bonjour.
Bonsoir.
Bonjour et merci d'être là encore pour ce quatrième entretien où nous allons parler autour de Blaise Pascal. Je rappelle à nos auditeurs que parmi les très nombreux ouvrages que vous avez écrits, des romans et des essais, il y en a un qui est particulièrement intéressant de mon point de vue. C'est celui sur Blaise Pascal, La nuit de l'extase, publié en 2014, il y a déjà 10 ans. Et même un peu plus, aux éditions du Cerf, et qui est un ouvrage qui nous relate le côté protéiforme du génie de Blaise Pascal, et puis cette conversion extraordinaire, le 23 novembre 1654, où tout d'un coup il a une rencontre avec Dieu qui va changer sa vie et le changer profondément. Et donc dans les relations dont on a parlé avant de Pascal avec la foi, vous l'avez dit précédemment, il a une sœur qui est religieuse à Port-Royal. Or l'abbaye de Port-Royal au XVIIe siècle, c'est quelque chose. Et donc je voudrais qu'on fasse un peu le point sur Port-Royal, ce qu'a été Port-Royal, ce qu'a été Blaise Pascal ou la famille Pascal dans cette aventure de Port-Royal. Vous qui avez suivi ça de près, c'est quoi l'abbaye de Port-Royal au XVIIe ?
Alors, Port-Royal des Champs, ça a été à un moment la forge à idées de la France. Mais une forge à idées rebelles. C'était les insoumis, ces messieurs de Port-Royal.
Peut-être un peu moins vulgaire, quand même.
Oui, je ne fais pas allusion à Mélenchon, mais je veux dire, il y avait le côté anti-institutionnel. C'est d'ailleurs ça qui fait que Louis XIV s'est bien rendu compte qu'il y avait un danger avec Port-Royal. Il y a la querelle théologique, d'abord. La querelle janséniste. C'est-à-dire que ces messieurs de Port-Royal des Champs, les petites écoles, étaient imprégnés d'un livre qui avait été écrit par Jansénius, qui explique en gros comme d'ailleurs l'avait fait saint Augustin, c'était pas très nouveau, que l'homme n'est pas capable de faire le bien. Quand l'homme fait le bien, c'est que c'est Dieu qui agit en lui. Par contre, quand l'homme fait le mal, il agit seul. Et que donc, tout le travail de conversion du chrétien, c'est d'arriver à faire obtenir la grâce de Dieu, qui n'est jamais un don gratuit. En face, sur le plan doctrinal, je simplifie beaucoup, les jésuites avaient créé une casuistique, c'est-à-dire une morale qui permettait de limiter énormément le côté dramatique de ce choix. Et la querelle, qui était une querelle théologique sur le rôle de la grâce dans la conversion, était aussi et surtout une querelle institutionnelle entre la Sorbonne et ces messieurs de Port-Royal. C'est-à-dire que l'université de Paris, l'évêque de Paris, les institutions en voulaient beaucoup à ces messieurs de Port-Royal qui se croyaient plus intelligents que tout le monde et qui en fait créaient une espèce de pôle d'insoumission sur le plan intellectuel. Et Louis XIV, qui avait été traumatisé enfant par la Fronde, je pense inconsciemment, et ça me rappelle quelque chose qui est la Fronde. Et Louis XIV a complètement perdu les pédales vis-à-vis de Port-Royal des Champs. Quand on pense qu'il a envoyé 300 hommes de troupes,
oui, ça c'est un moment,
pour expulser
un moment
22 religieuses infirmes, tellement qu'il avait la trouille de ce phénomène de Port-Royal.
Oui, puis ça ne va pas s'arrêter là. C'est-à-dire qu'effectivement, il envoie de façon totalement disproportionnée les troupes armées pour virer 22 religieuses qui sont très âgées. Mais ensuite, il veut tout raser, en quelque sorte.
Il rase le monastère et il vide le cimetière.
Et il vide le cimetière. Donc ça va très loin pour pas qu'on en fasse des saintes ou des gens
exactement.
En lieu de pèlerinage.
C'est pour ça que Jean Racine est enterré à Saint-Étienne-du-Mont, c'est que la femme de la veuve de Racine, sachant que l'expédition se préparait, a fait exhumer son mari, parce que sinon il aurait disparu dans une fosse commune, Jean Racine, comme les autres. C'est une histoire assez effrayante, surtout, ce qu'il faut bien mesurer, c'est que ça a gâché la vie, ça a pourri la vie de plusieurs générations en France. Ça a été des querelles extrêmement violentes, où l'amour-propre s'en est beaucoup mêlé. Le cardinal archevêque de Paris de l'époque, Monseigneur Perefixe, disait des sœurs de Port-Royal, elles sont pures comme des anges et orgueilleuses comme des démons. Et c'est vrai que l'amour propre a joué un rôle important. Et les épigones des jansénistes, ils ont continué. L'abbé Grégoire, par exemple, les prêtres jureurs de la Révolution française étaient pour beaucoup imprégnés des valeurs
de
Port-Royal. Et pour eux, le diable a été en partie incarné par le Louis XIV. Et d'ailleurs, lorsqu'on a profané la tombe de Louis XIV en 93 à Saint-Denis, on a trouvé le corps de Louis XIV noirci comme du charbon. Il était momifié, noirci. Certains nombres de descendants, si j'ose dire, intellectuels des jansénistes ont dit ben, « En fait, nous avons vengé la profanation du cimetière de Port-Royal.
Ah, »
C'était
oui,
ça.
C'est pas, oui.
Donc le jansénisme a été quelque chose de très très puissant.
Ce courant qui a quand même marqué le XVIIe siècle, hein, puisque je crois que Port-Royal est rasé au début du XVIIIe,
oui,
en
1707, je crois.
1707, oui, ou par là. C'est une rivalité aussi entre les jansénistes, hein, ce fameux Janssen qui avait écrit cette somme, et les jésuites, qui ont cette autre vision, comme vous le disiez la dernière fois. Et... les jésuites, ça n'a pas toujours été simple pour eux non plus. Ils ont été souvent aussi accusés, maltraités, etc. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce qu'il vous semble qu'aujourd'hui, il y a encore un écho de cette rivalité dogmatique un peu entre les jansénistes et les jésuites?
J'en sais rien. Moi, ce que j'observe, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'Église, on a un pape jésuite,
ouais.
François Bergoglio, enfin le pape François, et que ce pape est le premier qui a écrit une lettre apostolique consacrée à Blaise Pascal. Il fallait peut-être être jésuite pour oser faire ça. Il a écrit il y a 2 ou 3 ans un très très beau texte sur Blaise Pascal et qui montre qu'au-delà, effectivement, de ce qu'on peut lui reprocher sur le plan doctrinal dans la doctrine janséniste, on a un véritable exemple de sainteté. Et que ce soit un pape jésuite qui le dise, et qui le dise au XXIe siècle, c'est très intéressant.
Ouais.
Et c'est vrai que le Port-Royal des Champs, en dehors des querelles d'ego qui ont quand même joué un rôle et qui ont pourri un peu tout, ça a été quand même un foyer spirituel extrêmement important. Ouais. Notamment en matière pédagogique, les messieurs de Port-Royal avaient 100 ans d'avance en matière pédagogique. Ils apprenaient les langues vivantes à leurs élèves, etc. À l'époque, on était plutôt dans la scolastique. C'est-à-dire que les jésuites, qui on voit aujourd'hui souvent comme une espèce des intellectuels de pointe ou d'avant-garde.
Oui.
Et les intellectuels de pointe et d'avant-garde du XVIIe siècle, ce n'était pas les jésuites. C'était les jansénistes.
Les jansénistes.
Très clairement.
Les dominicains?
Les dominicains, bonne question. Je ne saurais pas dire, je ne vois pas très bien quels sont les grands dominicains qui auraient pu participer.
Parce qu'aujourd'hui, on considère quand même les jésuites un peu en perte de vitesse, parce qu'ils avaient beaucoup de lieux de formation qu'ils ont laissé filer, au moins en Europe. Mais en revanche, il y a un relais qui est pris par les dominicains sur la formation des jeunes, en particulier à Toulouse ici, qui n'est pas négligeable. Mais revenons à cette demande du pape François à l'égard de Blaise Pascal, qui est tout à fait effectivement intéressante, parce que c'est un jésuite qui réhabilite un janséniste alors qu'ils étaient rivaux. Est-ce que vous pensez que ça a une chance d'aboutir en béatification de Blaise Pascal?
Oui, je pense, parce qu'on a besoin d'un saint pour l'ère numérique. Et savoir que l'inventeur de la machine à calculer, le concepteur en fait de l'intelligence artificielle à partir du fameux triangle de Blaise Pascal, c'est un saint. Ça serait pas mal de dire que... Alors on a Carlos Acuti... Carlo Acutis, je ne sais plus, enfin, ce jeune Italien qui était l'homme des réseaux sociaux, mais l'inventeur de l'ordinateur pourrait être béatifié. Qu'est-ce que ça apporterait aux amateurs de Blaise Pascal? Rien du tout. Mais ça lui donnerait peut-être une autre audience, une lecture différente de la part de personnes qui ne s'y intéressent pas encore. C'est ça que j'y vois. Et surtout, il se rendrait compte que la foi, la conversion... peut s'exercer dans le monde. C'est ça aussi Blaise Pascal.
Ouais.
C'est aussi un entrepreneur.
C'est aussi un entrepreneur très en phase avec son temps.
Très en phase avec son temps.
Qui est resté en phase Comme vous l'avez dit, il n'a pas complètement renoncé après sa nuit d'extase, sa nuit de feu. Il n'a pas complètement renoncé à sa vie d'avant, mais il a quand même eu des inflexions très importantes, très significatives. Donc, il a mené les deux de front. Et donc, c'est vrai que ça montre qu'on peut être ne pas être nécessairement religieux pour avoir une rencontre avec Dieu et ne pas abandonner la vie matérielle au profit d'une vie purement de l'esprit. Donc ça oui. C'est une des vertus, je trouve, de notre religion, de montrer ça.
Oui, et puis il y a un autre exemple de Blaise Pascal, qui, pour notre temps d'aujourd'hui, c'est que c'est un célibataire. Il n'est pas rentré dans les ordres, il y a pensé. Il ne s'est pas marié, il y a pensé. Et aujourd'hui, on a beaucoup de célibataires. Et savoir qu'on peut avoir une vie chrétienne accomplie et trouver la joie dans ce statut qui, à l'époque, était, comme aujourd'hui d'ailleurs, plutôt douloureux dans le regard des autres, Blaise Pascal nous le montre. Voilà. Donc ça peut être ça aussi. C'est à la fois un saint scientifique, entrepreneur et célibataire.
Et célibataire qui garde la joie.
Qui garde la joie.
La notion de joie plus que de bonheur.
Exactement.
Et je trouve que ça aussi, c'est un enseignement extraordinaire. Eh bien, Monsieur Patier, merci pour tous ces éclairages sur Blaise Pascal, ce personnage extraordinaire, ce grand chrétien qui peut encore aujourd'hui nous servir de modèle. Et je ne saurais trop conseiller à nos auditeurs, s'ils veulent approfondir leur connaissance de ce personnage extraordinaire, eh bien, d'aller aux éditions du Cerf, Blaise Pascal, la nuit de l'extase, Xavier Patier, 2014. Merci à vous.
Merci beaucoup.